Chapitre 5. L'entrée secrète s'est refermée sur Vincent. L'odeur de cave, la proportion massive des marches et surtout la sensation d'épaisseur des parois du vénérable escalier le sécurise. Lorsqu'il arrive en bas, la chaleureuse lumière des lampes à huile lui procure aussitôt un sentiment de bien-être. Le voilà revenu chez lui, à l'abri. Depuis que son jeune frère et lui ont été chassés de la maison où ils avaient grandi, il n'a jamais réussi à se sentir légitime ou en sécurité nulle part, sauf dans ce sous-sol. Le lieu était autrefois un chai exploité par les moniales bénédictines de l'abbaye de Montmartre, à l'époque où les vignes couvraient des hectares de ce qui n'était encore que la campagne. Il n'en reste aujourd'hui qu'une immense cave voûtée, soutenue par des piliers ronds. Barriques et tonneaux ont cédé la place à d'autres formes d'artisanat. Désormais agencé autour des multiples activités de l'équipe, l'ensemble donne une impression de désordre, avec une profusion d'équipements et d'installations qui se dressent entre les postes de travail. Le mélange foisonnant des outils et matériaux nécessaires aux différents types de chantiers crée une surenchère baroque digne d'un entrepôt de décors d'opéra. Sur la gauche, on distingue l'atelier de menuiserie et d'ébénisterie de Conrad, avec son tour et sa scie à ruban, où se mêlent les parfums des différentes essences de bois qu'il travaille, souvent dominées par les effluves de térébenthine. Au-dessus de l'étau s'aligne tout un assortiment de ciseaux à bois, de rabots, de râpes, de gouges, de boîtes de cire et de brou de noix. À l'opposé de la salle, Eustasio étale les pots de peinture, pigments, pinceaux, brosses et chiffons avec lesquels il réalise ses remarquables illusions d'optique. C'est lui, le maître du camouflage et des maquillages en tout genre. Grâce à lui, l'acier peut passer pour un nuage, le tissu pour du granit. Il peut travestir le neuf en ancien et le creux en plein. Capable de travailler le plâtre comme les étoffes, le cuir comme le verre, il a aussi pour mission de fabriquer les modèles réduits des futures réalisations qui ne manquent jamais de convaincre les clients. Ses maquettes et moules de toutes dimensions occupent une belle part de l'espace, jusqu'au débarras du fond. Angelots, animaux fantastiques de toutes sortes, déesses et dragons se regardent ainsi dans des poses que la faible lumière rend surnaturelles. Chacun ne révèle son secret que si on lui enfonce un œil, lui tourne la patte ou lui déplace une écaille. Au centre, entre les installations éclectiques destinées à expérimenter les mécanismes qu'imagine Vincent, s'étire une grande table sur laquelle s'empilent plans et croquis dans un fouillis qui n'est qu'apparent. Une forge surmontée d'un système d'évacuation des fumées et dotée d'un large plateau dédié au travail du métal complète l'équipement du sous-sol. C'est le domaine de Pierre, qui a suivi les pas de son aîné et s'est spécialisé dans les mécanismes de toutes sortes. Appuyé contre un pilier depuis qu'il a été alerté par la cloche d'approche, c'est lui qui accueille Vincent. « Tu en as mis du temps, » le salue-t-il. « Assez pour faire la démonstration au prince et revenir. » »« Tout s'est bien passé ? » ?»« Sinon je ne serais pas là. Il a fallu que je risque ma peau, mais tout s'est bien terminé. » Il a même poussé un cri de peur lorsqu'il a entendu ma voix résonner par le tube d'écoute dans le hall. Le jeune frère de Vincent fronce les sourcils. « Tu ne devrais pas traiter cela à la légère. Chaque fois, je m'inquiète. Nos clients ne sont pas tous honnêtes. Je n'aime pas que tu y ailles seul. C'est dangereux. » « Tout est risqué dans notre affaire, petit frère. Alors, à quoi bon vous exposer avec moi ? N'empêche, t'attendre est une torture. C'est même de pire en pire. Plus les heures passent, plus je redoute de ne pas te voir revenir. » Vincent lui pose la main sur l'épaule. « Je sais ce que tu éprouves. Mais ne t'en fais pas. Je reviens toujours. » Un homme de haute taille, à la barbe fournie, contourne un pilier pour s'approcher à son tour. « Salutations, Vincent. Bien le bonjour, Conrad. Quel accueil t'a réservé le prince ? L'accent germanique est marqué, mais la diction impeccable. » Il m'a obligé à courir vite. Il a tenté de me faire égorger, mais pour le reste, c'était plutôt courtois. La routine. Si Aphrodite avait refusé de descendre, j'en serais mort, et pas de chagrin. Les deux hommes partagent un rire. Son Altesse est très satisfaite de sa cachette, ajoute Vincent. Elle vous félicite. Pierre hausse les épaules. Ton prince ne sait même pas qui nous sommes. C'est une des règles de notre entreprise. Elle vous protège. Nous a-t-il payé ? S'inquiète Conrad. L'or a été livré en temps et en heure. Henri me l'a confirmé. L'Allemand se réjouit et applaudit. Le chantier numéro 48 est donc officiellement achevé et nous sommes un peu plus riches. Effectivement, approuve Vincent. Bravo à tous. Beau travail. Il gagne la grande table et conclut. Nous pouvons désormais regrouper les plans du 48 et les archiver dans l'armoire forte. Demain soir, nous irons trinquer pour fêter cela tous ensemble. Il pose un regard circulaire sur leurs repères et s'étonne. Eustasio n'est pas là ? Il est chez la comtesse de Vignolles à Passy, explique Pierre. Chantier 42. La porte dérobée de son boudoir secret a besoin d'une nouvelle retouche de peinture. Vincent s'esclaffe. C'est au moins la cinquième fois que la porte de son boudoir exige un coup de pinceau. Chaque semaine, commande Pierre avec un sourire entendu. Espérons qu'elle ne nous rendra pas notre bel Italien trop épuisé. A-t-il au moins emporté ses outils pour préserver les apparences ? Ou n'est-il parti qu'avec son corps d'Apollon ? Conrad désigne la boîte à matériel de leur collègue, restée au pied de son établi. Les trois hommes ricanent sur le dos de leur compagnon. Pierre redevient sérieux le premier et change de sujet. Tu n'as pas oublié le rendez-vous chez Alfred Minguier en fin d'après-midi ? Un industriel, c'est ça ? Que veut-il au juste ? Sa demande n'en dit rien. Il désire te l'expliquer de vive voix. Qui nous l'a recommandé ? Françoise de Fremansac, dont la fille s'est fiancée au fils unique de M. Minguier et futur héritier de sa fortune. La noblesse se donne à l'industrie. C'est un signe des temps. Le pouvoir change de main. Conrad plaisante. Autrefois, les puissants brandissaient le glaive divin. Désormais, c'est une clé à bolette. À molette, Conrad, à molette, mais sur le fond, tu n'as pas tort. Un bref raclement venu du fond de l'atelier attire soudain l'attention de Vincent. Vous avez entendu ? Dans un bel ensemble, Pierre et Conrad secouent la tête négativement. Vincent plisse les yeux pour mieux voir l'endroit d'où semble être venu le bruit, mais cette partie de la cave n'est pas éclairée. Chacun s'y débarrasse de ce qui ne lui sert plus. C'est certainement un rat, commande son frère sur un ton se voulant rassurant. Vincent hausse les sourcils. Un rat ? Je lui réglerai son compte pendant que tu seras chez Minguier. Quelque chose d'inhabituel dans le comportement de Pierre éveille la vigilance de Vincent. Trop d'empressement à répondre. Un timbre de voix trop peu assuré pour un problème aussi simple. Vincent scrute à nouveau le lointain recoin. Pierre s'interpose et lui agite des croquis devant les yeux. Au fait, as-tu trouvé une solution pour le déclenchement de la trappe du futur chantier 52 ? J'ai quelques idées. Veux-tu que nous en discutions ? Insensible à la tentative de diversion de son frère, Vincent ne lâche pas le coin sombre du regard. Un rat ? Répète-t-il de plus en plus intrigué par l'attitude étrange de son cadet. Il se tourne vers Conrad, mais le menuisier lève les mains, feignant l'incompréhension. Sa réaction est artificielle, ce qui ne lui ressemble pas. Pour la première fois, Vincent a l'impression que son collègue à la franchise légendaire est même gêné. Bien décidé à comprendre ce qui se trame, Vincent empoigne une lampe et se dirige vers le fond de la salle. Pierre tente de le retenir. « Tu perds ton temps, je t'ai promis que j'allais m'en occuper tout à l'heure. » Voyant que sa remarque ne produit aucun effet, il se fait plus insistant. « Tu ferais mieux de te reposer pour arriver en forme chez M. Minguier. C'est un homme important. » Vincent ne s'arrête pas pour autant. Il ne se donne même pas la peine de répondre. Il marche droit sur la zone obscure où personne ne met jamais les pieds. Cette fois, Pierre le rattrape, le dépasse et s'efforce de lui barrer la route en haussant le ton. « Pourquoi n'écoutes-tu jamais ce qu'on te dit ? Tu n'en fais qu'à ta tête !» Son frère ne ralentit même pas. « Maman s'en plaignait déjà, pas étonnant qu'elle n'ait pas fait de vieux os. » Vincent se fige. Contenant la peine et la colère que la remarque a fait jaillir en lui, il pivote vers son frère. Jamais celui-ci ne lui avait lancé ce genre de reproche. « Pourquoi dis-tu cela, Pierre ? De quoi m'accuses-tu ? » Le jeune homme sait qu'il est allé trop loin. « Je ne t'accuse de rien, » essaie-t-il de tempérer. « Je dis simplement que tu devrais me laisser éliminer les rats. Tu as bien plus important à faire. » À la lueur de sa lampe, Vincent constate que Pierre est livide et fuit son regard. Il a désormais la certitude qu'il y a dans le fatras autre chose à trouver qu'un rongeur. Il s'avance et entame son inspection. Promenant sa lumière, il éclaire les amoncellements de planches, les accumulations de décors inutilisés, de chutes diverses et de maquettes entassées là, projet après projet. Son frère tente de renouer le dialogue. « Viens, retournons à la table, on ne va pas se disputer pour si peu. » « Cesse de faire du bruit, » lui intime son aîné. Dans le silence, Vincent est aux aguets. Il finit par percevoir un souffle, discret mais haletant, qui confirme ses soupçons. Sur ses gardes, il fait un pas en avant. D'un geste souple, il extirpe le couteau pliant à manche d'ébène qu'il porte toujours à sa ceinture et en ouvre la lame. « Je t'en supplie, » l'implore Pierre. « N'avance plus. » Vincent n'écoute pas. Entre deux frises de bois, il vient de repérer l'éclat d'un œil brillant, un œil grand ouvert, qui le fixe. Impossible de dire s'il est prédateur ou terrifié. Méfiant, le canif pointé, Vincent annonce avec calme. « Qui que vous soyez, sortez de là immédiatement. »«
Vous allez me faire du mal !»
s'élève une voix craintive, une voix féminine. Vincent insiste. « C'est uniquement si vous ne sortez pas que je risque de vous faire du mal. » Rien ne se passe d'abord. Mais les planches finissent pourtant par bouger. Elles s'écartent. Dans la cage qui a été aménagée sous l'enchevêtrement, Vincent découvre une jeune femme accroupie, au corsage déchiré, aux cheveux décoiffés, à la peau souillée, mais au visage incroyablement beau. Chapitre 6. En rage, Vincent agrippe son frère par son gilet et le plaque au mur. « Est-ce que tu te rends compte des risques que tu nous fais courir en ramenant cette fille ici ? Mais qu'est-ce qui t'a pris ?» Pierre est terrifié. Ce n'est pas la première fois qu'il voit son aîné s'énerver, et il sait de quoi il est capable. Mais jusque-là, aucune de ses colères n'avait jamais été dirigée contre lui.
« Pauvre inconscient ! Tu as perdu la tête ! Elle a vu nos visages ! Elle sait où nous vivons ! Elle connaît nos inventions ! Elle peut livrer nos secrets à n'importe qui !»«
Je ne l'ai pas fait entrer, » se défend Pierre.
« Pardon ? Tu prétends qu'elle est arrivée ici toute seule ? Elle aurait déjoué tous nos systèmes ?»
La semaine dernière, elle est tombée par la trappe à livraison. Je te jure que c'est la vérité.
La trappe à livraison ? Celle que nous avons colmatée ensemble ?
Tu vérifieras toi-même. Tout ce que nous avions fixé a fini par pourrir. Je travaillais à mon établi quand j'ai entendu un cri. Je me suis précipité et je l'ai trouvée par terre, à demi inconsciente. Pour chasser dans la rue, elle s'était cachée dans le premier trou venu. Elle s'est réfugiée dans la seule ouverture à sa portée pour échapper à une bande de vauriens. Il voulait la vendre au bordel de la rue Le Thor. Déstabilisé, Vincent desserre légèrement sa prise. Des sentiments contradictoires se bousculent en lui. Son frère précise. « J'ai bien pensé la renvoyer par où elle était arrivée, mais je n'en ai pas eu le cœur. La rejeter, c'était la condamner. »
Vincent encaisse. D'une voix à peine calmée, il finit par demander.
« Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ?»
Je guettais le bon moment, entre deux urgences. En attendant, j'ai pris sur moi de la cacher en lui interdisant de s'approcher de la table et des plans.
Depuis combien de temps est-elle là ?
3 jours. La colère de Vincent enfle à nouveau.
Elle a tout entendu depuis 3 jours ? Et tu as le culot de me dire que c'est parce que je ne rentre pas assez vite que tu t'inquiètes ?
Elle ne comprend pas de quoi nous parlons.
Vincent pivote à la recherche du menuisier qui s'est éclipsé.
« Conrad !»«
Voilà, voilà. »«
Tu étais au courant ?»
demande sèchement Vincent à l'Allemand qui s'approche.
« J'ai entendu son cri quand elle est tombée. »
Donc tu savais. Et l'idée ne t'est pas venue de m'avertir, sachant le mal que je me donne pour garantir notre sécurité? Je te respecte, Vincent. Tu es un honnête homme. On s'entend bien et je ne te trahirai pas. Mais je ne pouvais pas dénoncer ton propre frère. Vous êtes proches, vous êtes même inséparables. Ce n'est pas à moi de révéler ce que ton frère n'ose pas te dire. C'est votre affaire. Par contre, s'il te plaît, j'aimerais que tu le lâches parce que vous me faites de la peine à vous affronter comme ça. Vincent inspire profondément et obtempère. Conrad ajoute. Je dois t'avouer qu'à sa place, j'aurais fait pareil, et je parie que toi aussi. Vincent libère définitivement son cadet et remet son gilet en place. Il argumente. Je me serais d'abord demandé si ce n'était pas une espionne.
Envoyée par qui, mein Freund? Si tu l'avais vue manger, trembler et pleurer dans les bras de Pierre, tu aurais su que c'est juste une fille perdue crevant de faim.
Vincent fixe Pierre, qui ne fuit plus son regard. Puisque tu as décidé de la sauver, que comptes-tu faire d'elle?
Je ne sais pas. Elle me bouleverse. As-tu vu la détresse dans ses yeux?
C'est en effet son regard que j'ai repéré en premier derrière les planches et j'y ai vu beaucoup de choses. Tu n'as pas répondu à ma question. Comment envisages-tu la suite? Tu dois bien avoir une petite idée. On pourrait l'héberger quelque temps.
Une fille, ici?
Sans rien savoir d'elle?
Je lui fais plus confiance qu'à beaucoup de nos clients, remarque Pierre.
Tu sais, Vincent, on peut s'adapter, tempère Conrad. Ce serait seulement l'affaire de quelque temps. En plus, elle sait cuisiner. Et c'est bon.
Leur chef s'étrangle. Parce qu'elle a cuisiné pour vous?
Le ragoût d'hier, c'était elle.
Vincent ne sait plus quoi dire. Il est vrai que le ragoût était excellent, mais ce n'est pas ce qui le perturbe le plus. Il tourne la tête vers le fond de la salle. La frêle silhouette les observe, se détachant à peine de la pénombre. La jeune femme attend, debout, que l'on décide de son sort. Ses bras décharnés pendent le long de son corps, mais elle se tient bien droite. Ses épaules tombent, mais elle fait face, le menton levé, attentive. Même lorsque l'on retire tout à un être humain, il lui reste sa nature profonde. Vincent voudrait rester froid. Ses responsabilités l'y obligent. Éternellement condamné à prendre la bonne décision, ne succomber à aucun sentiment pour mieux accomplir ses devoirs. La pitié ne peut pas être à l'ordre du jour, et d'ailleurs cette jeune femme la refuserait certainement. Avec tout ce qu'il doit gérer, il n'avait vraiment pas besoin d'une fille tombée chez eux par hasard. Si seulement elle était allée se terrer dans un autre recoin, ailleurs. Mais le sort en a décidé autrement, et Vincent ne peut plus faire comme si rien n'était arrivé. D'autant qu'il sait exactement ce qu'elle éprouve. Il le ressent. Il s'en souvient. Lui aussi a vécu cette situation, ce moment infernal où votre destin dépend d'un autre. Vincent se dit que, décidément, rien ne sera simple dans cette vie. Il se tourne vers elle. Comment t'appelles-tu?
Gabrielle.